Et tu fais quoi dans la vie ? Une question à laquelle on répond souvent, mais pas foncièrement. Un temps d'échange à la rencontre de professionnels qui nous parlent de leur métier, de leur parcours, de la réalité du terrain. Une façon de découvrir ou redécouvrir une profession, et pourquoi pas même se découvrir une vocation. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission « Et tu fais quoi dans la vie ?». Aujourd'hui, nous partageons un moment avec Magali. Bienvenue Magali.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Nous allons prendre le temps du coup de parler de ton beau métier, mais avant ça, je vais te demander s'il te plaît de te présenter en quelques mots.
Bien sûr, je m'appelle Magali, j'ai 37 ans. On peut dire que je suis une grande blonde mariée. je fais du théâtre, petite dédicace à la compagnie Les Zébrés Zinzins. Je fais aussi du wing foil, un petit peu de sport, et puis j'aime beaucoup voyager, découvrir le monde, etc.
Ça donne envie d'en savoir plus. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais comme métier ?
Je suis orthoptiste depuis 2011 maintenant, donc petit calcul, ça fait quelques années. J'ai un cabinet libéral à Fontaine-sur-Saône, dans le Rhône. Voilà.
Super, et du coup, orthoptiste, c'est quoi ? Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier, si tu devais nous donner une sorte de première définition ?
Bien sûr, ça consiste en la rééducation ou réadaptation visuelle. Donc ça permet aux gens de mieux utiliser leurs yeux, de ne pas avoir double, de ne pas avoir flou, d'arriver à supporter leur paire de lunettes pour des patients qui ont des problèmes de posture, qui ont des vertiges. Enfin, voilà, c'est très, très complet. Il y a plein de petites choses qui sont en lien avec le système visuel. On ne dirait pas, mais ça regroupe plein de choses.
D'accord. Et donc, comment tu as fait pour devenir orthoptiste et quel a été ton parcours pour arriver là ?
Alors moi, c'était un parcours qui n'était pas destiné à l'orthoptie à la base. En fait, je voulais faire kiné. Et enfin, j'étais passionnée d'anatomie. Donc du coup, le métier qui me venait à l'esprit, c'était être kiné, kinésithérapeute. Et à l'époque, à Lyon, pour faire kiné, il fallait passer par la première année de médecine. Donc du coup, je suis partie en médecine. J'ai fait les deux fois la première année. À l'époque, on pouvait faire comme ça. Il n'y avait pas la PACES à l'époque. Et en fait, j'ai pas réussi le concours kiné. Donc du coup, je savais plus trop quoi faire. C'était deux années très compliquées. La première année de médecine, c'est vraiment un rouleau compresseur. Et à la fin de la deuxième fois où j'ai passé le concours, j'étais un peu perdue. Je savais plus ce que je voulais faire. Je savais plus trop. Je me suis dit, bon, je vais essayer de passer les concours kinés dans d'autres villes où ça passe pas par le concours de médecine. Donc on pouvait y aller via une prépa. Et puis voilà, passer plusieurs concours. Donc je suis partie en prépa, mais en même temps, je me suis dit, je vais quand même assurer mes arrières parce que j'en avais un peu marre de passer des concours. Et à l'époque, quand tu avais une certaine moyenne en médecine, tu pouvais avoir une passerelle pour aller directement en deuxième année, donc de biologie, de biochimie ou de droit. Et du coup, moi, je m'étais inscrite en deuxième année de biologie, au cas où, voilà. Mais j'ai jamais mis les pieds, je savais vraiment pas quoi faire, il me fallait quelque chose de concret, enfin vraiment, la biologie c'était trop abstrait, je voyais pas ce que j'allais faire. Et donc j'ai fait mon année de prépa, et bon, ça a été une année très compliquée pour moi, enfin voilà, encore une fois, après les deux années de médecine, ça a été vraiment très dur de se remettre en selle, hein, de reprendre les révisions, les concours, etc. Et du coup, j'ai raté tous mes concours de kiné. Et là, vraiment, je savais vraiment plus du tout quoi faire. J'étais un peu désemparée. Je suis partie travailler pendant les trois mois que j'avais. Et en parallèle, je me suis inscrite pour redoubler mon année de biologie à laquelle je n'avais pas mis les pieds en me disant ça me fera une roue de secours pour la suite. Et puis, j'ai eu en fait vraiment beaucoup de chance. La fille d'amis à mes parents, petite dédicace à Marielle, si tu nous entends, qui était en école d'orthopsie à Montpellier et qui m'a dit viens, renseigne-toi sur le métier d'orthopsie. Ça ressemble entre guillemets un peu à kiné dans le sens où tu fais du suivi de patients, de la rééducation. Tu as quand même ce côté anatomie qui me plaisait aussi. Et je connaissais pas du tout, c'est la première fois que j'entendais le mot orthoptiste. Donc, je me suis renseignée et c'est vraiment grâce à elle que je suis devenue orthoptiste parce qu'après, j'ai fait un stage en libéral chez une dame dans la région grenobloise et j'ai adoré. J'ai adoré, je me suis dit, ah bah oui, c'est exactement ça, ce qu'il me faut. Et en fait, à l'époque, donc là, quand je me suis aperçue de ça, on est au mois de juillet et en fait, les concours étaient en septembre, sauf le concours de Lyon qui était en avril. Et du coup, bah, j'ai pas pu le passer. Donc, j'ai choisi une école. Ils se débrouillaient pour que tu puisses en passer qu'une seule parce que tous les concours étaient le même jour. Donc, du coup, j'ai choisi Montpellier. J'ai passé le concours. Il se trouve que je l'ai réussi. Donc, je suis partie en école d'orthoptie à Montpellier.
Et en plus, il fait beau là-bas.
Exactement.
Non, mais c'est un beau message aussi d'espoir pour toutes les personnes qui entreprennent médecine, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
Ouais, exactement.
Mais comme quoi, il y a aussi des passerelles et des belles choses à faire à côté de tout ça. Et justement, pour être un bon orthoptiste, selon toi, quelles sont les qualités requises ?
Je pense qu'il faut aimer le relationnel, hein, parce que tu passes ta journée quand même avec des patients. Il faut aimer le relationnel, il faut être patient, il faut être curieux. C'est un métier où on découvre plein de choses et c'est ça qui le rend très, très intéressant. C'est que tout le monde est différent, chaque cas, chaque patient est différent et t'apporte quelque chose à aller chercher. Et donc, du coup, il faut cette curiosité-là de se dire, mais tiens, mais qu'est-ce qu'il a ? Comment je pourrais le soulager ? Qu'est-ce que je peux lui apporter ? Voilà. Il faut aimer apprendre, se former. On peut faire des diplômes universitaires, on peut faire plein de formations très, très intéressantes. Et je pense qu'aussi, il faut être armé un peu de rigueur parce que tenir un cabinet libéral, c'est quand même pas rien. Il faut avoir quand même les épaules et les reins solides. Donc voilà, un peu de rigueur, être autonome et de la patience. Ouais.
Et justement, ça donne quoi une journée dans la vie de Magali, l'orthoptiste ?
Voilà, alors une journée avec moi, bah, c'est jamais la même journée. Moi, je suis en libéral. En fait, il faut savoir qu'en orthoptie, on peut travailler de différentes façons. Moi, j'ai choisi de travailler en cabinet libéral et de plus faire le versant rééducatif avec les patients. Mais tu peux aussi aller travailler dans un cabinet d'ophtalmologie pour préparer les consultations. D'ailleurs, maintenant, quand tu vas renouveler tes lunettes chez l'ophtalmo, tu passes quasiment systématiquement devant un ou une orthoptiste qui te fait les examens complémentaires. Et voilà, donc tu peux aussi travailler en structure pour les patients malvoyants, etc. Et donc, pour en revenir à ma journée, une journée avec moi, donc en libéral, dans mon cabinet, en fait, je consulte, donc j'ai une quinzaine de patients par jour, à peu près, et tu as tes patients, entre guillemets, réguliers, que tu vois toutes les semaines, que tu connais bien, avec qui tu vas créer un lien, et puis tu as des nouveaux patients qui viennent pour la première fois. Voilà. Et donc à chaque fois, c'est un peu le défi de savoir mais pourquoi ils viennent, qu'est-ce que je peux leur apporter pour les soulager. Voilà. Et donc, ça va aller du bébé de 9 mois qui vient pour faire un dépistage visuel au papy de 95 ans qui vient parce qu'il a une DMLA, donc dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou qui a fait un AVC et qui du coup a une amputation d'une partie de la vision. Ça, en passant par l'adolescent qui travaille sur écran toute la journée, qui a mal à la tête, ou la personne de 45 ans qui a ses premières progressives, et qui a du mal à les supporter. Voilà, c'est un métier qui est très vaste et on a aussi ça se développe de plus en plus, tous les enfants avec les troubles d'apprentissage. Donc, quand ils arrivent au CP, CP-CE1, avec l'apprentissage de la lecture, l'écriture, bah, y a plein de choses qu'on décèle. Donc, les enfants qui ont du mal à faire les retours à la ligne, qui ont du mal à rentrer dans la lecture, en orthoptie, on les soulage bien. Ça va être aussi les patients qui ont des TSA, donc des troubles du spectre autistique. On en a de plus en plus. L'orthoptie a vraiment sa place dans la prise en charge de ces patients-là. Plus globalement, c'est ce qu'on appelle les TND, les troubles neurodéveloppementaux. Et donc, c'est tous les enfants avec plein de pathologies, par exemple des dyslexies, des dyspraxies, des dysphasies, ce qu'on appelle avant les multidys. Mais voilà, tout ça, en orthoptie, on a vraiment notre... notre métier permet vraiment d'aider ces enfants-là à acquérir les apprentissages correctement.
Ok, super. Et du coup, j'ai envie de te demander, même si j'ai une petite idée, est-ce que tu aimes ton métier? Et évidemment. Pourquoi?
Ouais, bah évidemment. Ouais, j'adore mon métier. J'adore mon métier, bah, parce qu'on apprend tous les jours, sans arrêt. C'est pas du tout un métier où on peut se reposer sur ses acquis. Il faut sans arrêt se mettre à niveau, se mettre à jour. Il y a des nouvelles choses qui sortent. À mon époque, c'était un niveau Bac plus 2. Donc maintenant, ça a changé. Tu as le niveau licence pour les nouveaux diplômés, donc Bac plus 3, ce qui est très, très important. Ça nous donne l'accès au master, au doctorat éventuellement, mais c'est surtout que ça donne accès à la recherche. Et il y a énormément à faire en recherche, en orthopsie, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et c'est un métier que j'aime bien parce que bah, parce qu'il y a des perspectives d'avenir qui sont très importantes, notamment en ce moment avec la pénurie d'ophtalmo. On a beaucoup de choses qui...
Vous reprenez certaines choses ?
Exactement. Ouais. On peut maintenant recevoir même certains patients sans avoir besoin d'une ordonnance médicale, alors qu'avant, on était soumis à une prescription médicale. Là, le tout venant peut venir pour faire un contrôle visuel sans avoir besoin d'ordonnance en fonction de l'âge. Donc ça, c'est une première étape qui, pour nous, une étape autonomie qui est très forte et très importante.
Génial. Et du coup, Magali, comme à chaque émission, je demande en général à mon invité du jour de choisir le morceau de son choix. Donc je vous laisse découvrir le choix de Magali.
Même si elles ont plus 20 ans, elles ont le niveau, le mojo, l'expérience évidemment. Besoin de vivre d'aventure, féminine et libérée, et puis se casse dans la nature. Ça fait longtemps qu'elle la prépare. Leur virée entre copines, l'excitation du grand départ, et puis maquillage chez Sandrine, enfin parfumée à prêter. Elles font le bilan des ressources, la carte bleue à boire et à fumer, et du latex ça coule de source. Le rouge à lèvres sur les mégots, musique à fond sur l'autoroute. Elle t'envoie un dernier texto qui finit par
je t'aime à toutes.
Même si elles ont plus 20 ans, elles ont le niveau, le mojo, l'expérience évidemment. Besoin de vivre d'aventure, féminine et libérée, et puis se casse dans la nature. Après l'apéro, le resto, c'est Ginto et Bachata, dans un club rempli de gringos. Et puis danser, elles adorent ça. Du coup elles aguichent à mort tous les beaux gosses de service. L'excitation monte et monte encore. Elle bouge en boîte, c'est plus propice pour aligner les shooters, changer encore de cavalier. Traumatiser le pauvre serveur et ton alliance.
Bah je l'ai caché.
Même si elles ont plus 20 ans, elles ont le niveau, le monde, l'expérience évidemment. Besoin de vivre d'aventure, féminine et libérée, et puis se casse dans la nature.
Voilà pour le premier soir. Et leur sortie, ça dure 3 jours. Le mieux, c'est de ne rien savoir. Toute façon, l'amour dure toujours. Quand elle replaque à la maison, c'est le moment que je préfère. Salut chérie, belle gueule de plomb. J'ai mis les gamins chez ma mère. On va se faire le film à fond. On a la soirée pour nous deux. Faire l'amour dans toute la maison. Elle me répond,
t'es pas sérieux.
Même si elles ont plus 20 ans, elles ont le niveau, le mojo, l'expérience évidemment. Besoin de vivre l'aventure, féminine et libérée, et puis se casse dans la nature. Même si elles ont plus 20 ans, elles ont le niveau, le mojo, l'expérience évidemment. Besoin de vivre l'aventure, féminine et libérée.
Calade. Et tu fais quoi dans la vie?
De retour dans notre émission « Et tu fais quoi dans la vie ?» en compagnie de Magali, qui nous parle donc de son métier d'orthoptiste. On va parler un peu plus précisément de ton environnement, c'est-à-dire ce métier fait partie donc des métiers de la vision, des métiers des yeux. Et donc, vous êtes ceux qu'on appelle les 3 O, donc ophtalmologiste, opticien et orthoptiste. C'est un vrai exercice de diction, juste de le dire. Peux-tu nous parler et nous expliquer justement les rapports que vous avez entre vous et s'il y a peut-être même d'autres métiers qu'on connaît moins ?
Exactement, les 3 O, c'est un peu le socle de base de notre profession. Donc, l'ophtalmologue, évidemment, indispensable, qui va traiter toute la partie médicale. L'opticien, également indispensable, qui lui va être plutôt dans l'adaptation des lunettes pour choisir les verres, la monture, etc. Et puis l'orthoptiste, donc nous, où on va intervenir plutôt pour les patients qui ont besoin d'un suivi en rééducation, qui n'arrivent pas, comme je disais tout à l'heure, à tolérer les lunettes, ou alors chez l'ophtalmo pour les aider dans leur consultation à faire les examens complémentaires.
D'accord. Et il n'y a pas d'autres choses qu'on ne connaîtrait pas.
Et donc, du coup, on est également en lien avec plein d'autres professions, notamment les ORL également, parce que on intervient dans les troubles de la posture, les troubles posturaux, chez les patients qui peuvent avoir des vertiges ou des problèmes au niveau du corps. Donc, les ORL sont aussi importants. Et évidemment, les médecins généralistes. Les pédiatres qui nous envoient beaucoup d'enfants pour faire des dépistages visuels quand ils ont un doute ou un enfant, encore une fois, qui a des difficultés à l'école. On a également beaucoup de liens avec d'autres paramédicaux. Je pense aux orthophonistes, aux ergothérapeutes, aux psychomotriciens, aux neuropsychologues. On a énormément de liens avec ces professionnels-là. Il y a aussi des liens avec des kinés, surtout les kinés vestibulaires, encore une fois, pour les patients vertigineux. On peut avoir aussi des liens avec des ostéopathes, encore une fois, pour les patients qui ont des problèmes de posturologie.
Super. Et c'est vrai que dans l'esprit, je dirais, général des gens, autant ophtalmo-opticien, c'est très clair, orthoptiste, quand tu parles de ton métier, justement, quelle est la question qui revient le plus ? Et est-ce que, de manière générale, les gens connaissent le métier d'orthoptiste ?
De plus en plus, on connaît de plus en plus, mais c'est vrai que jusqu'alors, quand on dit orthoptiste, souvent on dit « Ah, c'est pour les pieds, ah, c'est pour les dents, ah non, ça c'est orthodontiste ou orthopédiste ». Non, il y a besoin des fois d'expliquer un petit peu, alors quand on dit « Ah, bah, c'est parfois quand il y a un strabisme » ou quand « Ah oui, tiens, je connais ». Mais non, c'est pas... Enfin, de plus en plus, encore une fois, mais on n'est pas aussi connu qu'opticien ou ophtalmologue. Mais on y travaille dur.
Et dans votre quotidien, donc quel outil vous ne pouvez pas vous passer ?
Une barre de prisme.
Une barre de prisme. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est et à quoi ça sert ?
Eh bien, si on se rappelle un peu nos bases en physique, le prisme, en fait, c'est une matière transparente qui va dévier les rayons lumineux, pour faire simple. Et ça nous permet... Enfin, c'est comme une petite règle avec plein de prismes différents. Et on la passe devant les yeux du patient et ça nous permet de le faire, pour vulgariser, loucher, donc converger ou diverger, qui est un peu à la base de la rééducation en orthoptie.
D'accord, donc une règle de prisme.
Exactement.
C'est ça ?
Une barre de prisme.
Une barre de prisme. Et justement, dans ce beau métier, est-ce que tu aurais une ou plusieurs anecdotes à nous partager, des choses sympas que tu as vécues ou du moins marquantes ?
Oui, alors, des anecdotes, honnêtement, j'en ai à l'appel. Après, ce que j'adore dans ce métier, c'est vraiment de se sentir utile, en fait. Donc ce qui me marque, c'est vraiment les moments où je me suis dit, ah ouais, là, c'était important que je sois là et que je vois ce patient à cet instant T. Tu vois, ça me fait penser au déconfinement post-Covid. J'ai un patient qui m'appelle. Je suivais sa fille, donc je le connaissais un petit peu, alors... Il voulait faire un bilan parce qu'il se plaignait de ne pas bien voir. Puis il était un peu en errance médicale, on ne savait pas trop. Bon. Et puis je le reçois et là, à l'examen, je vois qu'en fait, il y a vraiment quelque chose de neurologique important chez ce patient-là. Et c'est une des rares fois où je lui ai dit « mais on va appeler les urgences ensemble et vous allez y aller tout de suite ». Parce que si tu dis à un patient, vous allez aller aux urgences, pas sûr qu'il y aille dans la seconde. Donc on a fait ça ensemble, il est parti aux urgences et en fait, il m'a rappelé quelques jours après pour me remercier parce qu'en fait, on lui avait découvert ce qu'on appelle un syndrome de Chiari. Bon, c'est une maladie neurologique qui entraînait plein de problèmes. et des problèmes. Il avait des problèmes dans les genoux, il avait des problèmes d'élocution, il avait voilà, plein de problèmes. Et
personne n'avait su déceler, non, sans passant par la case orthopsie, pardon.
Exactement. Et donc, du coup, à ce moment-là, bah, ouais, je me suis sentie vraiment, vraiment fière, entre guillemets. D'avoir pu aider ce patient-là, ça a été vraiment quelque chose d'important pour moi. Après, c'est aussi, je me souviens d'une petite fille qui était venue parce que ben elle n'arrivait pas du tout à rentrer dans les apprentissages au niveau de la lecture, etc. Les parents en avaient un petit peu marre, ils m'ont emmenée. Et puis en fait, au bilan de vue, tu te rends compte qu'il y a ce qu'on appelle une amblyopie, donc il y a un œil qui voit rien du tout et puis l'autre qui voit très bien, mais ça se décèle pas, les deux yeux ouverts. Donc à la fin de mon bilan, je dis effectivement, on a un œil qui est presque aveugle. Cette petite avait à peu près un peu plus de 7 ans et on considère que la limite pour traiter donc ce qu'on appelle l'amblyopie, c'est aux alentours de 7 ans. Après, le cerveau est plus assez plastique pour pouvoir le faire. Et on a quand même essayé de faire le traitement qui a très bien marché. Elle a retrouvé une vue parfaite sur les deux yeux. Et voilà, je me suis dit, peut-être qu'à 6 mois après, cet enfant, si je ne l'avais pas vue à ce moment-là, elle aurait pu avoir un œil, entre guillemets, presque aveugle.
En effet, il y a de quoi être fière.
En fait, on se sent utile. Je veux dire, en ce moment, on entend aussi beaucoup de jeunes, ou des 30-40 ans, qui ont une perte de sens aussi dans le travail, qui ne savent plus, qui changent complètement de boulot pour aller faire quelque chose de plus en lien avec la nature ou autre. Et c'est vrai que, en orthopsie, en tout cas, il n'y a aucune perte de sens. Tous les jours, je ferme le cabinet en me disant « Ah, là, j'ai été utile pour tant de patients. » Et c'est vraiment très satisfaisant.
C'est beau. Et je pense qu'en effet, c'est le souci de beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent du sens dans le travail. Et donc, tu nous confirmes que ce métier-là, vous pouvez y aller justement les yeux fermés, foncer, si vous avez envie d'être orthoptiste en tout cas. Et justement, avant de terminer cette émission, je voulais aussi te demander quels étaient les nouveaux enjeux pour ton travail aujourd'hui. Est-ce que les réseaux, les écrans, la surconsommation de manière générale de tout ça, est-ce que ça entraîne, est-ce que on voit une évolution très concrète dans vos métiers?
Ouais, bien sûr.
Répercussions.
Oui. On sollicite énormément la vision de près maintenant, effectivement, avec tous les écrans. Donc, on voit arriver des patients avec, pas des nouvelles pathologies, mais des pathologies visuelles qui s'accentuent. Le port des lunettes, il y a des études quand même qui sortent, c'est qu'il y a une myopie générationnelle qui arrive. Je ne me rappelle plus exactement le pourcentage, mais je crois que dans les années à venir, il y aura un enfant sur deux qui sera myope. Vraiment, il y a un enjeu vraiment majeur, notamment en Chine, je crois, où ils ont mis en place des choses à l'école, des sortes de pressoirs où en fait l'enfant se cale contre lorsqu'il écrit à l'école, pour éviter qu'il ait la tête collée sur le cahier, pour faire prendre une distance suffisante pour éviter l'apparition de la myopie. Enfin, c'est aussi les enfants qui jouent plus à l'extérieur, qui sont que avec des lumières artificielles, et les yeux, le cerveau aiment pas du tout. Et on va être de plus en plus sollicité, ça c'est sûr.
Ok. Donc attention aux écrans, malgré tout.
Oui, après, attention aux écrans, mais il y a aussi un autre côté. Enfin, il ne faut pas non plus
faut faire pas diaboliser, une croix dessus.
Non. Les écrans, c'est aussi important. Il y a plein de choses qui existent pour soulager les yeux, notamment baisser un peu la luminosité. Il y a des petites applications qui existent. Mais c'est comme tout, en fait. Il faut un petit peu modérer. Modérer tout ce qu'on fait et pas faire. C'est sûr que si on fait 20 heures dans la journée d'écran, c'est absolument pas bon, mais comme tout, j'ai envie de dire...
Est-ce que tu aurais justement les trois bons conseils de Magali pour prendre soin de ses yeux?
Je ne sais pas si je peux avoir forcément les trois bons conseils universels, mais pour prendre soin de ses yeux, je pense qu'il faut passer un peu de temps dehors. Et il faut prendre du recul par rapport au support, pas être collé le nez rivé sur la feuille ou sur l'écran. Et puis, ne pas faire d'écran avant d'aller se coucher.
Et pour terminer, justement, j'avais envie de te demander, où est-ce que tu te vois dans 10 ans?
Très bonne question. Je pense que je serai toujours orthoptiste. Enfin, vraiment, c'est un métier qui me passionne. Je vois pas pourquoi j'en changerais. Après, où, quand, comment, ça c'est une autre histoire. On laissera faire le destin.
Au soleil. Bon, peu importe où, en tout cas, on te souhaite tout le bonheur du monde et une longue carrière d'orthoptiste.
Merci.
Merci encore pour ce précieux partage. C'était Et tu fais quoi dans la vie ? Et je vous dis à très vite pour découvrir un nouveau métier.
Calade.
Et tu fais quoi dans la vie ?
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.